Nous commençons cette semaine un programme qui s'appelle « Bâtir sur du solide ». À la fois, c'est un programme que nous voulons vivre sur la durée. Ça va durer 40 jours, depuis aujourd'hui, le dimanche 7 septembre, jusqu'au vendredi 17 octobre. C'est quelque chose qu'on veut vivre sur durée, et je vous encourage vivement à le faire pendant la semaine, à méditer les textes qu'il y a à méditer. Et en même temps, n'ayez pas peur, si vous êtes là que ce dimanche, si vous en ratez un, il y en a pour tout le monde, quand même. Tout à l'heure, avec les enfants, avant qu'ils ne partent, on a chanté ce chant qui est assez connu, qui est en tête du hit parade des chants pour les enfants, « Le fou sur le sable ». Et c'était une très bonne introduction pour la prédication de ce matin. « Le fou sur le sable, le sage sur le roc », c'est une parabole très connue que Jésus a donné à ses contemporains. Zut, oui, Michael, j'ai oublié de te demander d'envoyer la projection. Voilà. Une parabole très connue que Jésus a donnée à ses contemporains, tellement connue que peut-être elle se brouille un peu dans notre esprit, dans notre mémoire. On se souvient, comme dans la chanson, qu'il y a un sage et un fou, qui a du roc et du sable, et qu'il faut construire sa maison au bon endroit, sinon elle sera détruite. Du coup, c'est une sorte de trois petits cochons bibliques, une sorte d'histoire des trois petits cochons. L'enjeu, c'est de bien construire sa maison, pour pas que le grand méchant loup nous croque. Mais l'enseignement de Jésus, c'est un petit peu plus que ça quand même. Et j'aimerais que nous nous interrogions ce matin sur qu'est-ce que c'est que bien construire. Le roc, le sable, la paille, le bois, les briques. Qu'est-ce que c'est que bien construire? Qu'est-ce que c'est que bâtir sur du solide? Et je vous propose de lire ce que Jésus a dit et qui nous a rapporté par Matthieu dans son évangile, donc l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, et nous filons à la fin du chapitre, au verset 24. Donc voici ce que dit Jésus. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée. Et sa chute a été grande. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Donc je le disais, cette prédication ouvre notre parcours bâtir sur du solide. Et c'est un parcours sur lequel nous allons nous concentrer sur le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, ce sont trois chapitres dans l'évangile de Matthieu, qui sont le résumé de l'enseignement de Jésus. Et donc en parcourant ces trois chapitres, on va vraiment voir ce que Jésus demande à ceux qui le suivent. Et là, ce matin, on commence par la fin. Cette parabole, elle arrive à la toute fin du sermon sur la montagne. C'est par ça que Jésus termine son enseignement. Ça peut paraître déroutant de commencer par la fin, mais des fois, il est bien de connaître la fin, justement au début. Si vous aimez un peu le cinéma, vous avez pu voir cette technique dans de nombreux films, où on commence avec une scène du dénouement. Et l'intérêt, c'est de voir, pendant le film, comment on va arriver dans cette situation. Je repense par exemple pour un film connu à Forrest Gump, où le film commence avec Forrest Gump assis sur un banc en train de distribuer les chocolats de sa boîte de chocolat. Et pendant un long moment, pendant plus d'une heure, on l'écoute raconter sa vie et on se demande comment il est arrivé là, sur ce banc, avec cette boîte de chocolat. C'est la même chose ici. On commence par cette parabole finale et elle doit nous aider à faire attention dans notre lecture du Sermon sur la montagne pendant les prochaines semaines. C'est une grille de lecture qui nous permettra, quand on lit ce que dit Jésus, de nous souvenir de pourquoi il le dit. Il le dit pour que nous puissions construire, bâtir notre maison au bon endroit. Alors, si on regarde rapidement, de quoi parle cette parabole ? Dans cette parabole, Jésus met en opposition un homme avisé et un fou. Alors un homme avisé, un sage, dans la chanson que chantent les enfants, c'est bien un sage, c'est court, ça rentre bien dans les vers de la chanson. Un homme avisé, c'est un homme qui agit à propos, qui agit avec intelligence, après avoir mûrement réfléchi. Dans d'autres traductions de la Bible, vous pouvez trouver justement un homme intelligent, un homme sensé. Donc cette parabole parle de quelle est la différence entre un homme avisé et un fou. La différence, ce n'est pas celui qui écoute les paroles de Jésus. La différence, c'est ce qu'on fait des paroles de Jésus. L'homme, les deux entendent les paroles de Jésus, mais l'homme avisé les met en pratique, alors que le fou les entend et ne les met pas en pratique. Ce qui caractérise l'homme avisé, ce n'est pas ce qu'il écoute, c'est ce qu'il fait. La différence, elle n'est pas d'écouter en nom, elle n'est pas de réclamer une identité chrétienne ou non, d'assister au culte, d'être membre de l'Église. La différence, elle est dans ma vie, sur ce que je fais, sur les conséquences que ma foi a dans ma vie. Voilà où est la différence. Et voilà où sont les fondations de la maison. C'est ça la bonne façon de construire. La façon de construire qui fait que la maison ne tombe pas. Du coup, je crois que ce texte nous concerne bigrement, nous qui sommes ici, nous qui entendons l'enseignement de Jésus ce matin comme d'autres dimanches matins. Qu'allons-nous en faire ? Qu'allons-nous faire de cet enseignement ? Alors, je l'ai déjà dit, les deux, le fou comme l'homme avisé, entendent les paroles de Jésus. Ce n'est pas là la différence. J'ai parlé de la différence, il y en a un qui le met en pratique, l'autre pas, mais il y a aussi des points communs entre les deux. Oups. Voilà, ça ne rend pas très bien, c'est un peu petit, mais en lisant ce texte, on se rend compte très vite que le texte est construit exactement de la même façon. Vous voyez ici, les mots en blanc, c'est les mots qui sont répétés dans les deux parties, l'homme avisé et le fou. C'est exactement les mêmes mots qui sont employés. Et donc, il y a des points communs, parce qu'il y a des points communs entre tous les hommes sur cette terre. Et le premier point commun que j'aimerais souligner, c'est que tous les deux construisent une maison. Qu'est-ce que c'est que cette maison ? Cette maison, c'est la vie qu'ils vivent. Une vie, ça se construit. On commence par l'éducation qui nous vient de nos parents. On commence par aller à l'école, par faire des études. On s'engage dans une profession, parfois plusieurs. On choisit une ville, on choisit un pays. On choisit un conjoint pour tout partager ou on choisit de rester célibataire. Une vie, ça se construit. Et tous les choix qu'on fait, ça nous donne un cadre. Un cadre pour notre vie. Comme une maison est un cadre, avec ses murs, avec son toit, un cadre dans lequel on vit. Et construire sa maison, c'est obligatoire. On n'y coupe pas. Pas moyen de fuir, de dire non, moi, non, je ne construis pas. Les choix qu'on fait, même celui de ne pas vouloir construire, même celui de vouloir garder un maximum de liberté, c'est un choix, c'est un cadre pour notre vie. Ne pas construire, c'est la situation dans laquelle on se trouvait dans l'enfance, quand on était sous l'influence et sous la responsabilité de nos parents, quand c'était eux qui décidaient pour nous ce qu'on mange, ce qu'on fait, où on vit, où on va. Mais un jour, chacun d'entre nous est concerné par ça. Nous quittons l'enfance et nous décidons pour nous-mêmes. Et là, il y a des choix à faire. Lieu où vivre, comment vivre, avec qui vivre, où. La vie, ça se construit. Sur quoi ? Sur quelle fondation ? Voilà la question. Donc c'est le premier point que je relève. Tout le monde a une maison à construire. Le deuxième point que je relève, c'est la constance des intempéries. Vous le remarquez, les deux sont soumis aux intempéries. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Les vies que nous vivons sont éprouvées. Toutes sortes de difficultés nous atteignent au cours de notre vie. Ça peut être le décès d'un proche qui nous est très cher, ça peut être une maladie grave qui dure, ça peut être le chômage, l'insécurité. Ça peut être les difficultés au travail, un échec dans les études. Ça peut être une trahison dans nos relations familiales, dans nos relations avec les amis. Ça peut être toutes sortes de choses. Et personne n'y coupe. Il est intéressant de noter que l'homme sage, comme l'homme avisé, les traverse. Et ça, c'est un enseignement pour nous. Chrétiens ou non chrétiens, tous, nous sommes soumis à des épreuves que nous avons à traverser. certains prêchent un évangile de prospérité. Si tu suis Jésus, tu seras béni matériellement. Tu auras de l'argent, tu auras la santé, tu n'auras pas de problème. Si tu n'as pas ces choses, cette sécurité, c'est que tu n'es pas un bon chrétien. Jésus dit l'inverse dans cette parabole. Il nous rappelle que tous, avisés ou fous, nous avons à faire face aux intempéries, aux difficultés de la vie. La différence, c'est comment on les traverse. La différence, c'est ce qu'il reste une fois qu'on a essuyé la tempête, le vent, la pluie, les torrents qui passent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Job, ce personnage de l'Ancien Testament. Lui, il en a connu des épreuves. Il a tout perdu. Il a perdu tous ses biens matériels. Il a perdu sa santé. Il a perdu ses enfants. Et des fois, ce qu'on a perdu, on ne le retrouve pas. Et ainsi, Job n'a pas retrouvé les enfants qu'il avait perdus. Mais Job, même s'il vivait avant Jésus-Christ, d'une certaine façon, il avait construit sa vie sur le roc. Et il a connu une restauration. Sa maison a subsisté. On le sait pour nous aussi, certaines épreuves, elles laissent des séquelles irrémédiables. Quand un proche meurt, il ne reviendra pas. Certaines maladies nous diminuent irrémédiablement. Certaines trahisons ne peuvent pas être réparées. Notre maison peut être abîmée. La tempête peut l'abîmer. Nous pouvons avoir un mur à réparer, un toit à refaire. Mais si elle est bâtie sur le roc, elle ne tombe pas. Mais revenons à construire sur le roc. Bâtir sur du solide. La différence entre les deux, la différence entre l'homme avisé et le fou. Jésus compare cela à bâtir sur du roc, sur le rocher, avoir des fondations sur quelque chose de dur. Ce n'est pas quelque chose de facile. Le roc, c'est dur, il faut le creuser. Cet été, on est allé en camping et notre emplacement, c'était du sable. C'est très facile d'enfoncer les sardines dans le sable. Avec le doigt, les enfants pouvaient le faire. Heureusement, on n'a pas eu de vent, on n'a pas eu de torrent, parce que je pense que la tente aurait été emporté. Construire sur le roc, c'est plus difficile. Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, voilà ce que c'est que construire sur le roc. Et ce n'est pas facile à faire. C'est le travail de toute une vie. Et j'aimerais vous proposer trois étapes que nous pouvons suivre dans ce travail de construction de nos fondations sur Jésus. La première étape, c'est écouter. Écouter les paroles de Jésus. Si nous ne les écoutons pas, on aura du mal à les mettre en pratique. Tout commence par là, même si ce n'est pas la fin. L'homme avisé et le fou les entendent, la différence n'est pas là. Mais il faut quand même les entendre, les écouter, sinon la suite est impossible. Ça pose une question tout de même. Est-ce que tous les hommes ont l'occasion d'entendre les paroles de Jésus ? Est-ce que tous ont cette opportunité de construire sur du solide? Comment font ceux qui n'entendent pas, ceux qui ne sont pas exposés à la parole de l'Évangile? Dieu ne leur donne-t-il aucune chance de bâtir sur du solide? C'est une question complexe et je n'ai pas le temps ici de l'aborder en profondeur. Mais si c'est une question qui vous travaille, j'aimerais donner deux éléments de réponse tout de même. Déjà, il ne faut pas que cette question soit une diversion pour nous. Je m'explique. Si nous entendons, si moi j'entends, alors je dois mettre en pratique, sans me poser de questions des autres. Si moi je suis interpellé, je dois me mettre en action. Il ne faut pas que cette question soit une diversion, une excuse pour ne pas mettre en pratique. Deuxième élément de réponse, si nous nous sentons concernés par ceux qui n'entendent pas, qu'attendons-nous pour leur communiquer l'enseignement de Jésus? L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, dit « Comment les hommes entendront-ils parler si personne s'il n'y a personne qui prêche? Comment entendront-il parler de lui si personne ne l'annonce? » Nous devons annoncer aux autres, partager les paroles de Jésus et leur laisser la possibilité, eux aussi, de construire sur le roc. Mais vous qui êtes dans cette salle, vous êtes exposés à la parole. Si vous êtes avisés, si vous ne voulez pas vivre comme un fou, si vous voulez vivre comme un sage et non comme un insensé, vous devez la mettre en pratique. Écoutez la parole. Il y a plusieurs moyens de l'écouter. L'écouter, nous sommes en train de le faire. Écouter la prédication à l'église, c'est déjà une forme d'écoute. Mais nous sommes appelés aussi à l'écouter personnellement, à travers la Bible que nous sommes invités à lire, à méditer, à travers une lecture personnelle, une lecture qui nous concerne. Et notre parcours, bâtir sur du solide, nous invite à cette double écoute, à la fois cette écoute ensemble, pendant le culte du dimanche matin, et puis aussi cette écoute individuelle, par des lectures qui nous sont suggérés. Donc, la première étape, c'est l'écoute. La deuxième étape, c'est s'examiner. S'examiner soi-même. Avoir un regard juste sur soi. La Bible, ce n'est pas un livre de recettes, un livre de préceptes qu'il faut appliquer sans réfléchir. Il faut la comprendre et comprendre en quoi elle me concerne, moi. Ce n'est pas facile, mais si vous lisez la parole, vous verrez qu'elle permet de nous examiner nous-mêmes. L'apôtre Jacques la compare à un miroir. Dans son épître, il reprend cette parabole en la poussant un peu plus loin. Je vous lis ce qu'il écrit. Si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie qui il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. On retrouve dans ce texte la même thématique de mettre en pratique ce qu'on a entendu. Et Jacques va plus loin. Cette parole, c'est un miroir au contact duquel on découvre qui on est. La parole de Dieu nous permet de nous voir d'une façon unique. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit également. La parole de Dieu est vivante. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Faites cet essai. Donnez cette chance à la parole de Dieu. Lisez-la, méditez-la. Et vous serez surpris de ce que vous découvrirez sur vous. C'est ce que nous invite à faire notre parcours, bâtir sur du solide. Lire la parole, la méditer avec une feuille blanche et un crayon pour explorer méthodiquement ce sur quoi Dieu nous interpelle. Je vous ai promis trois étapes. La troisième étape, c'est changer. Une fois qu'on a entendu la parole, une fois qu'on a vu en quoi elle nous concernait, il est important de changer notre comportement. Et c'est là qu'il faut retrousser ses manches. Une fois qu'on s'est vu dans le miroir, il faut agir sur ce qu'on a vu, sur ce que l'on est. Si la parole de Dieu nous a montré tel ou tel défaut, il ne faut pas continuer d'agir comme si on ne l'avait pas. Alors comment faire? Comment changer qui on est? Ce qu'on a été depuis notre naissance, ça peut sembler être une tâche insurmontable. Pour cela, nous avons l'aide de l'Esprit de Dieu. Dieu qui agit lui-même en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. C'est ce que Paul écrit aux Philippiens. Dieu qui produit le vouloir et le faire. Il nous aide dans cette transformation et il nous aide même à avoir la volonté de cette transformation. C'est la meilleure aide qu'on puisse avoir sur ce chemin de transformation que de nous confier à lui et de le faire en particulier à travers la prière, en revenant régulièrement avec les sujets que nous avons vus, avec ce que nous avons vu sur nous-mêmes, pour le remettre devant lui et lui demander de nous changer, et le demander avec persévérance, jusqu'à ce que nous voyions son œuvre. Nous avons l'aide de Dieu, nous avons également l'aide de la communauté. Ensemble, les uns avec les autres, nous pouvons nous aider, nous soutenir. La Bible nous invite à confesser nos péchés les uns aux autres. Le péché, ce n'est pas forcément une action spectaculaire, une crasse qu'on fait à quelqu'un. Ça peut être une habitude, quelque chose d'ancré en nous et qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Un état dans lequel on se trouve et qui déplaît à Dieu. Quelque chose dans lequel on a toujours vécu, dans lequel on se satisfait. J'ai toujours été comme ça, ça va, ça passe. Confesser nos péchés les uns aux autres, c'est en parler à d'autres de ces difficultés avec lesquelles on se débat, notre désir de changer. C'est l'occasion de les prendre à témoin, de dire à d'autres, je veux changer. Et ensuite, ces personnes deviennent une aide pour nous. Elles sont des témoins, des rappels de notre volonté de changement. Des rappels qui nous encouragent à la persévérance. Il ne s'agit pas de nous surveiller les uns les autres, de nous juger les uns les autres. Ceci se fait avec un regard bienveillant de personnes qui se savent toutes pécheurs, qui savent toutes que sans l'aide de Dieu, même pour moi-même, ce chemin est vain. Et c'est une chose que nous sommes invités à vivre également pendant ce parcours, de nous retrouver dans de dans des groupes plus petits pour avoir l'occasion de nous soutenir les uns les autres sur ce chemin de transformation. Écouter, s'examiner, changer. Voilà les étapes à suivre pour construire sa maison sur le roc, pour bâtir sa vie sur du solide. Et c'est cela auquel je veux vous inviter au moment de conclure cette prédication. Écoutez les paroles de Jésus, s'examiner avec elles et changer en suivant leur direction. Cette parabole des deux maisons nous rappelle que nous sommes logés tous à la même enseigne. Nous avons tous une vie à construire. Nous traversons tous des épreuves, des intempéries qui mettent nos vies à rude épreuve. Sur quelle fondation allons-nous construire? Jésus nous dit que les bonnes fondations, c'est de mettre en pratique ses paroles. Cette parabole est une grille de lecture pour notre étude du Sermon sur la montagne. Efforçons-nous, durant notre étude, d'écouter avec attention ce que le Seigneur a à nous dire sur nous-mêmes. Examinons-nous pour voir où nous en sommes, et puis agissons avec son aide. La pluie tombera, les torrents viendront, le vent soufflera et se précipitera sur cette maison, elle ne tombera pas si elle est fondée sur le roc. Amen.